Radio Rythme Bleu, il est 17h45, Info Soir, c'est avec vous Gilles Ménage.
Six heures de visite et de très nombreux entretiens. La ministre déléguée aux Outre-mer, Marie Guévenoux, est à l'écoute des interlocuteurs économiques et politiques du territoire. Comment les banques s'organisent-elles pour faire face aux demandes urgentes générées par les émeutes? La question était au cœur des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. Les alternants du CFA retrouvent des cours après l'incendie de leur lieu de formation pendant les émeutes. La Chambre des métiers a réagi en urgence. La CCI et plusieurs entreprises ont mis leurs locaux à leur disposition. Les Jeux Olympiques de Paris 2024, 8 médailles dont 3 en or aujourd'hui pour le nageur Léon Marchand du côté de Maxime Grousset. Il a terminé 5e de la finale du 100 mètres nage libre. Page spéciale dans ce journal. Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans Info Soir. La ministre déléguée en charge des Outre-mer à l'écoute des maires ce matin, Marie Guévenoux, a reçu les présidents des deux associations de maires, puis les maires du Grand Nouméa, dont les communes ont été les plus touchées par les violences insurrectionnelles. Ils lui ont parlé de sécurité, d'ordre public et de difficultés financières. Elisabeth Noir.
L'ordre public et la sécurité, préoccupation essentielle des maires de Nouméa et de l'agglomération. Ils voulaient sensibiliser la ministre sur la nécessité de rétablir le plus rapidement possible l'ordre républicain. C'est le cas singulièrement au Mont-d'Or, bien sûr. Et le maire Eddy Le Courrieux a insisté auprès de Marie Guévenoux sur le blocage de l'ERP1 à la hauteur de Saint-Louis.
La ministre était parfaitement au courant, elle a souligné le caractère exceptionnel du Mont d'Or. Ça devient insupportable pour tout le monde, en particulier pour les gens qui habitent de l'autre côté. Moi, j'ai même fait à nouveau la proposition à la ministre de la construction de cette route dédiée là, au Mont d'Or Sud, en passant par le bord de mer, sachant qu'il y a un certain nombre de financements qui vont déjà aller au futur centre pénitentiaire de plusieurs milliards. Donc moi, j'ai dit aujourd'hui, si on n'était pas capable de sécuriser définitivement le Mont d'Or, il fallait trouver une solution pérenne et ça passerait par la construction de cette route. Savoir que depuis 2 semaines, l'axe est entièrement bloqué. J'ai appris qu'un certain nombre d'opérations de police avaient eu lieu, donc un certain nombre de personnes ont été arrêtées et que ça allait continuer pendant les prochains jours.
Question de sécurité, question économique, question financière. Les communes de l'agglomération ont les mêmes problématiques et il est important qu'ils puissent sensibiliser l'État, révèle pour sa part Johan Le Courrieux, le maire de Nouméa.
C'est toujours bien de faire le point avec un ministre de l'Outre-mer, même si elle est démissionnaire. Ça permet aussi d'avoir un relais très direct auprès du président de la République et auprès du gouvernement et de peut-être passer aussi des consignes claires aux successeurs éventuels. Donc de pouvoir voir que la situation en Calédonie est très grave et que les mois à venir seront encore plus tendus d'un point de vue sanitaire et d'un point de vue social également. Nous avons vraiment des questions communes, telles que les questions budgétaires et financières pour les 4 communes de l'agglomération, mais j'ai envie de dire pour les communes de la Nouvelle-Calédonie également. Et puis après, que l'ensemble des soutiens, de l'accompagnement de l'État s'inscrive vraiment dans une démarche globale et pour un accord ou pour un projet de société pour la Nouvelle-Calédonie.
Dans les médias, l'un des soucis essentiels des maires, c'est aussi la situation budgétaire de leur commune. C'est le directeur de cabinet du maire de Païta, Antoine Romain, qui représentait ce matin le maire Marilyn D'Arcangelo.
On n'arrivera pas à clôturer nos budgets sans une aide substantielle des autres collectivités et en premier lieu de l'État. Donc c'est effectivement le principal message qu'on lui a fait passer parce que cette incapacité pour nos communes à pouvoir réaliser leur budget vont avoir des conséquences en cascade, notamment vers le secteur privé puisqu'on sera dans l'incapacité de pouvoir honorer nos contrats et continuer nos politiques d'investissement telles qu'on les souhaitait pour cette année. Ça aura donc un impact fort encore et de nouveau sur l'emploi, alors notamment dans le secteur du BTP, mais pas que, puisque tous nos petits fournisseurs vont aussi en pâtir. Et évidemment, on a voulu sensibiliser Madame la Ministre sur cette difficulté particulière.
Et concernant la question sécuritaire, Antoine Romain se dit satisfait de la réponse apportée par l'État, notamment pour Païta, même s'il reconnaît que cette réponse a un peu tardé. J'ajoute que le maire de Nouméa, Sonia Lagarde, participait à cet entretien, mais qu'elle n'a pas souhaité faire de déclaration.
Et auparavant, Elisabeth, ce sont les présidents des deux associations de maires qui avaient été reçus par Marie Guévenoux.
Et ils lui ont surtout parlé, eux aussi, du rétablissement de l'ordre public. En réponse à leurs préoccupations, la ministre leur a annoncé l'envoi de forces supplémentaires en Nouvelle-Calédonie après les Jeux Olympiques, et aussi le versement dès le mois de septembre de la totalité de la dotation de l'État aux communes. C'est ce que nous a dit Pascal Vittori, le maire de Bouloupari et président de l'Association française des maires.
La première chose qu'on lui a demandé, c'est le rétablissement de l'ordre public, de la sécurité et puis de la possibilité de circuler pour les Calédoniens. Donc elle nous a confirmé que des forces supplémentaires arriveraient après les Jeux Olympiques en Nouvelle-Calédonie et que donc ça servirait effectivement à poursuivre le rétablissement de l'ordre public. Un deuxième point, l'urgence financière pour les communes qui sont en grande difficulté de trésorerie. Et là, elle s'est engagée à ce que la dotation globale de fonctionnement qui est versée par l'État aux communes, la totalité de cette dotation soit versée au mois de septembre et qu'on n'attende pas la fin de l'année. Donc ça, c'est important parce que le mois de septembre, c'est la date à partir de laquelle les communes vont commencer à être très en difficulté. Et donc, on espère que ça soulagera un petit peu nos collectivités. Et puis enfin, la troisième chose, c'est qu'elle a évoqué des discussions sur l'avenir et la nécessité que chaque camp, le camp indépendantiste de son côté, le camp loyaliste de son côté, soit uni pour pouvoir entamer des discussions.
Le président de l'association des maires indépendantistes et maires de Pueblo, Florentin Dedane, participait également à cette rencontre avec Marie Guévenoux, ainsi qu'Alcide Ponga, le maire de Coahua, Florence Roland, le maire de La Foix, et Wilfried Weiss, le maire de Kumak. Celui-ci a insisté sur la situation sanitaire catastrophique, notamment en province nord, où il n'y a plus que 8 médecins, alors que les centres hospitaliers de Kumak et de Pointe-d'Imier ferment les urgences de nuit à partir de ce soir.
On avait sollicité la réserve nationale, donc elle nous a dit que la réserve nationale allait être mobilisée à l'administration sanitaire nationale, et je l'ai aussi interpellé sur les besoins que l'on a au niveau de certains médicaments que l'on ne trouve plus sur le territoire ou de certains matériels qui font défaut. Et là, j'ai demandé si on pouvait pas, suite à un courrier du président du conseil d'administration du CHM, solliciter l'agence santé publique de France qui, normalement, peuvent, dans ce genre de cas, pouvoir aider la Nouvelle-Calédonie. Elle a demandé à ce qu'on consulte le Medipol et le CHN pour qu'ils fassent remonter les besoins en médicaments ou en matériel de façon à ce qu'elle puisse, elle, solliciter l'Agence de santé publique France.
L'envoi de la réserve sanitaire et l'aide de l'Agence de la santé publique, deux pistes retenues par la ministre pour tenter d'améliorer la situation sanitaire de la Nouvelle-Calédonie.
Et la ministre avait ensuite rendez-vous avec les représentants du monde économique, Elisabeth, pour évoquer les besoins des entreprises et les aides de l'État.
Le président de la CCI, David Guyenne, tenait d'abord à saluer l'action de l'État, son soutien économique et financier et son rôle de relais de propositions. Il a ensuite rappelé à la ministre que lors de son dernier séjour, elle avait vu des entreprises brûlées et saccagées et des Calédoniens en colère et terrorisés. Aujourd'hui, dit-il, même si la situation est stabilisée, elle reste critique et la Calédonie a plus que jamais besoin de l'État.
Aujourd'hui, on a l'impression que la Calédonie a trouvé une certaine stabilité, mais elle a trouvé une stabilité dans une dégradation, en mode dégradé. Donc on a voulu lui dire qu'il fallait toujours évidemment considérer que la Calédonie était à la limite de l'effondrement économique, de l'effondrement social, et que le soutien fort, massif de l'État, notamment en termes de subventions pour les entreprises, doit continuer tant que nous n'arrivons pas à construire tous ensemble une relance économique, une visibilité politique, et puis un projet pour la Nouvelle-Calédonie.
La présidente du MEDEF fait la même analyse, mais pour même ces délais, il s'agissait ce matin de poursuivre un dialogue ininterrompu.
C'était l'opportunité de poursuivre les échanges qu'on a virtuellement depuis déjà plusieurs semaines et de lui rappeler avec force les préoccupations majeures du monde économique, à savoir le retour rapide à la sécurité et la nécessaire adaptation d'un certain nombre de dispositifs d'aide. Dernier sujet majeur, c'était les assurances et la rapidité de ce dispositif et des indemnisations des entreprises. On a également parlé d'avenir parce qu'il faut commencer à y réfléchir et à poser les bases de ce qui pourrait être les réformes de l'économie calédonienne dans les semaines et les mois qui viennent.
Préparer d'ores et déjà l'avenir et la reconstruction, c'est aussi le message qu'a voulu faire passer Elisabeth Rivière, la présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat.
Le monde économique sera là et devra être là au moment des discussions parce que nous devons reconstruire une nouvelle Calédonie différente avec un modèle économique et social forcément différent. Donc tous les partenaires autour de la table, à l'unanimité, nous avons demandé de pouvoir être présents sur tous ces sujets. Nous sommes source de propositions, nous étions déjà source de propositions bien avant cette crise et nous avons besoin d'apporter les choses concrètes du terrain.
Satisfaction enfin pour Jean-Christophe Niotou, le président de la Chambre de l'Agriculture et de la Pêche, à l'issue de cet entretien avec Marie Guévenoux.
Nous sommes satisfaits d'avoir une ministre qui est à l'écoute. Nous le savions, hein, qu'elle était venue donc pour écouter les interrogations et les inquiétudes du monde économique, mais de tous les Calédoniens en général. Donc on a une ministre à l'écoute, une ministre qui nous a confirmé que le dossier calédonien était un dossier prioritaire et que même dans le cadre donc d'un gouvernement de transition, le sujet de la Nouvelle-Calédonie est prioritaire et qui continue à être traité au plus haut lieu de l'État. Donc nous en sommes satisfaits.
La plupart des interlocuteurs de la ministre révèlent en effet qu'elle les a assurés que c'est le président de la République lui-même qui suit désormais le dossier calédonien.
Merci Elisabeth Noir. Et cet après-midi, Marie Guévenoux a entamé le marathon des rencontres avec les groupes politiques du Congrès, en commençant par le groupe Les Loyalistes, l'occasion pour Gilles Briel d'exprimer l'impatience des Calédoniens.
C'était surtout pour nous l'occasion de rappeler que le président de la République est venu fin mai, qu'il avait donné 72 heures pour arrêter les blocages des indépendantistes et relancer les discussions, et que 70 jours après, il y a encore une partie de la population qui est bloquée et que les discussions n'ont pas repris. Donc il est urgent que l'État prenne des initiatives. Certes, il y a eu la dissolution, certes, le gouvernement expédie les affaires courantes, mais la Nouvelle-Calédonie se meurt aujourd'hui et on a besoin d'une intervention forte de l'État pour remettre les Calédoniens autour de la table, notamment les indépendantistes qui sont divisés et qui se font attendre pour donner des perspectives aux Calédoniens, parce qu'on ne pourra rien reconstruire si les Calédoniens, les investisseurs, les familles n'ont pas de perspective sur leur avenir.
Un message que la ministre déléguée en charge des Outre-mer affirme avoir entendu. Elle s'est ensuite entretenue avec la délégation du groupe Rassemblement, emmenée par Alcide Ponga, puis avec le groupe Calédonie Ensemble. Marie Guévenoux recevra ensuite le groupe UCFLNKS et Nationaliste, puis le groupe UNI, avant de s'entretenir avec les élus de l'éveil océanien qui ne forment pas un groupe au sein du Congrès. La ministre terminera ses entretiens demain matin en recevant le président du Congrès, Roch Wamitan. Ce sera son dernier rendez-vous avant de quitter la Nouvelle-Calédonie au terme d'une visite qui aura duré au total 36 heures.
Radio Rythme Bleu, opinion.
C'est donc l'heure d'opinion, votre rendez-vous SMS sur Radio Rythme Bleu. Et voici notre question du jour. Dans quel domaine attendez-vous surtout des réponses de la part de Marie Guévenoux, la ministre déléguée aux Outre-mer? Si c'est dans le domaine de l'ordre public, vous tapez 1. Si c'est dans le secteur économique, vous tapez 2. Et si c'est sur la question de l'avenir institutionnel, vous tapez 3. Et vous envoyez bien sûr votre réponse au 31-46. La réponse à notre question d'hier, 87% des auditeurs de Radio Rythme Bleu qui se sont exprimés par SMS disent craindre une dégradation à moyen terme du niveau sanitaire de la Nouvelle-Calédonie en raison du départ de nombreux médecins. Ils sont 13% à ne pas partager cette crainte. Et puis c'est Philippe Blaise, élu Les Loyalistes, président du MRC et premier vice-président de la province sud, qui sera demain midi l'invité d'Elisabeth Noir dans le magazine Transparence. Il sera interrogé sur l'analyse qu'il fait de la situation de la Nouvelle-Calédonie depuis le 13 mai, sur les urgences, sur les préoccupations et sur les solutions pour en sortir. Philippe Blaise, invité de Transparence, c'est à suivre demain à partir de midi, juste après notre édition de la mi-journée. Il est 17h58, dans un instant, la suite de l'actualité avec d'abord un retour sur les jeudis de l'économie, Radio Rythme Bleu.
Spécial info jeu SMS sur RRB, le jeu du million 40-20 change de formule. Maintenant, c'est tous les 1500 SMS pile sur le compteur pour gagner 100 000 francs de bons d'achat à dépenser où vous voulez, comme vous voulez. Il n'y a pas de liste préétablie, les gagnants décident comment se faire plaisir. Alors pour jouer, envoyez RRB par SMS au 40-20. Et si vous n'êtes pas pile sur le compteur, votre SMS est enregistré automatiquement pour le jeu du million. Oui, 1 million de bons d'achat sont à gagner par tirage au sort parmi tous les SMS reçus. Alors tentez votre chance en envoyant RRB au 40-20. 371 francs par SMS, règlement disponible à l'accueil de la radio. N'oubliez pas, RRB au 40-20. Bonne chance.
Savez-vous que quand plusieurs appareils sont branchés au même endroit, il est préférable de les brancher sur une multiprise équipée d'un interrupteur? On peut ainsi couper l'alimentation de tous les appareils d'un seul geste.
Retrouvez toutes les astuces éco-conso sur le site EEC. Sur RRB, il n'y a pas de jour sans EEC.
Construisons notre pays, économisons l'énergie.
RRB, 11h-13h, Infomag, Gilles Ménage.
Comment les banques, publiques ou privées, s'organisent-elles pour faire face aux demandes urgentes générées par les émeutes? C'était la question qui était au cœur des jeudis de l'économie Radio Rythme Bleu ce midi. Elles ont d'abord dû s'organiser au plus vite, c'est ce qu'a expliqué le directeur général délégué de la BCI, Eric Viard.
on est face à une situation totalement inédite où la principale difficulté, c'est que brutalement, en l'espace de deux mois et demi, on a énormément de clients qui sont en difficulté. Gérer des difficultés de nos clients, ça fait partie de notre métier. Et on le fait au quotidien dans notre activité normale. Mais là, c'est la masse, en fait, qui est difficile. C'est que en l'espace de 15 jours, sur le mois de mai, on s'est retrouvé avec une économie quasiment détruite à 100% et qu'il faut soutenir dans des délais très courts, au risque effectivement de ne jamais la voir se relever si on ne fait rien.
Les demandes les plus fréquentes, qu'elles proviennent d'entreprises ou de particuliers, concernent des demandes de report d'échéance. Des outils ont également été mis en place, comme le prêt à taux zéro. Et pour faire face à ces dépenses supplémentaires, les banques peuvent s'appuyer sur la SOGEFOM, ce fonds de garantie doté par l'État, dont l'AFD est l'actionnaire majoritaire, vise en effet à accompagner les banques sur des financements pour lesquels elles estimeraient que le risque est trop élevé ou que les garanties apportées par les entreprises sont insuffisantes. C'est tout ça qui permet de répondre à l'urgence, a expliqué Eric Biard.
L'urgence aujourd'hui, elle est clairement la trésorerie. C'est ce qui manque à tout le monde, que ce soit un client entreprise ou un client particulier. Sa difficulté du moment, c'est la trésorerie. Soit parce qu'il a son entreprise qui a été détruite, soit parce qu'il a perdu son chiffre d'affaires, soit parce qu'il a perdu son emploi pour un particulier. Donc les solutions que nous cherchons à mettre en place le plus rapidement possible sont des solutions qui viennent soulager la trésorerie de nos clients, voire accompagner les besoins de trésorerie, en nous appuyant effectivement sur les dispositifs qui nous sont offerts. Donc on a cité le PTZ, mais la SOGEFOM est un dispositif qui est essentiel puisqu'elle permet à la fois de travailler sur de la consolidation d'encours de crédit, sur du crédit court terme, donc pour véritablement apporter de la trésorerie nouvelle à l'entreprise, et puis dans un deuxième temps, sur la partie reconstruction, où nous pourrons effectivement dédier des financements pour permettre aux entreprises de se reconstruire et de se relancer pleinement.
Et de son côté, l'AFD, qui joue en quelque sorte auprès des collectivités du territoire le rôle de banque publique, continue de soutenir les finances des collectivités, a expliqué Thomas de Gubernatis. Le directeur adjoint de l'AFD, l'Agence française de développement, s'est aussi mobilisé très rapidement après le début des émeutes.
Ce qu'on a fait immédiatement, c'est qu'on a accéléré un certain nombre d'instructions afin de permettre à certaines collectivités de régler nombre de factures sur les investissements des projets qui étaient déjà engagés. D'ici une quinzaine de jours à peu près, ce sera un peu plus de 5 milliards qu'on aura injecté déjà dans l'économie pour financer des projets d'investissement et donc qui vont bénéficier aux entreprises qui ont des enjeux de trésorerie. On est en dialogue, par ailleurs, avec l'ensemble des collectivités sur leurs prospectives financières. Vous avez vu que le gouvernement a voté un budget supplémentaire négatif, c'est-à-dire qu'on considère aujourd'hui que les recettes fiscales n'arrivent pas à hauteur de ce qui était attendu et qu'il est nécessaire de l'intégrer dans les budgets des communes dès à présent. De fait, les communes vont être obligées de revoir en fait leur stratégie d'investissement, leurs priorités, où allouer leurs recettes. D'abord les salaires, enfin, il y a un certain nombre de dépenses obligatoires. Et puis, en fonction de ce qui reste, réaliser des travaux et des investissements. Et certaines d'entre elles ont déjà commencé à réduire la voilure. Elles n'ont malheureusement pas le choix. Donc nous, on répondra à leurs demandes pour autant qu'on considère que la situation du client permet de les soutenir. Il peut arriver qu'on soit obligé de refuser des prêts. Aujourd'hui, je dirais qu'on va être sur un volume d'activité qui va être supérieur à celui de l'année dernière. Donc on est encore en capacité tout à fait d'accompagner l'économie à travers les collectivités locales.
Éric Biard et Thomas de Gubernatis ont tous deux insisté sur le fait que les établissements publics et privés essayent au mieux de soutenir l'économie, mise à terre par les émeutes alors qu'elle était déjà fragile auparavant. Dans tous les cas, rien ne pourra fonctionner comme avant les émeutes et il faudra engager au plus vite des réformes structurelles pour revoir le modèle économique. Une émission que vous pouvez retrouver en intégralité en audio et vidéo sur notre site internet. Dans le reste de l'actualité, les locaux du centre de formation des apprentis avaient été presque entièrement détruits au cours des émeutes et depuis lundi, un tiers des alternants a enfin pu reprendre une formation, Sarah Mégéry.
Il s'agit des métiers de coiffure, esthétique et boucherie. Ils sont accueillis de manière temporaire à la CCI. Ce matin, un temps d'échange était organisé entre les apprentis et les représentants des différentes instances. Elisabeth Rivière, présidente de la Chambre des métiers et de l'artisanat de la Nouvelle-Calédonie, était présente. L'occasion pour elle de remercier les représentants de la CCI, les entreprises ainsi que les apprentis.
Je voudrais, à travers votre micro, remercier le président de la CCI et toutes ses équipes qui ont bien voulu nous mettre à disposition pendant une certaine durée des salles pour que l'on puisse faire nos cours de maths français. On a aussi donc les entreprises qui nous accueillent avec leur plateau technique, parce qu'aujourd'hui, pour l'instant, il ne nous est pas possible de remettre en place tous nos plateaux techniques. Donc là, c'est une première reprise avec un tiers des alternants. L'objectif aujourd'hui, c'est de rencontrer nos jeunes et d'entendre aussi les difficultés qu'ils ont traversées pendant toute cette période. Certains ont perdu leur entreprise, d'autres ont vécu dans leur quartier de grandes difficultés. Donc on est là pour les encourager, pour les accompagner, pour qu'ils puissent s'insérer convenablement dans notre société.
249 alternants ont pu conserver ou retrouver un contrat d'alternance. Ils étaient 279 alternants avant la crise. Les précisions de Mayana Avtan, responsable du service alternance au CFA.
Par rapport aux circonstances, on s'attendait vraiment à beaucoup plus de contrats rompus. Après, il faut distinguer le contrat de travail de la formation. Comme on écoutait tout à l'heure, on a des jeunes qui sont sans entreprise depuis le début, mais à qui on donne accès à la formation pour pouvoir valider les compétences retenues sur le référentiel et valider en fin d'année. On a vraiment une dynamique de solidarité. Première étape, on se réveille. Deuxième étape, comment vous allez ? Intra-CFA et extra-CFA, tous nos partenaires. Et puis, OK, troisième étape, bango, quoi. On y va, il y a des diplômes à sauver. C'était simple, mais on s'est dit, il faut se raccrocher à quelque chose. Puis voilà, aujourd'hui, on est là, on est en cours, quoi. Je trouve ça génial, en fait.
D'ici 2 à 3 semaines, les apprentis des métiers de l'alimentation, de l'automobile et les métiers rares reprendront. Concernant les métiers du bâtiment, ils seront les derniers à reprendre les enseignements d'ici un peu plus d'un mois.
Et la FEDE, de son côté, interpelle l'État sur sa responsabilité civile en matière de réparation des dégâts dus aux émeutes. La semaine dernière, le syndicat a saisi, au travers d'une lettre, le président de la République et le haut-commissaire. Hier, une rencontre a eu lieu entre les représentants syndicaux et le secrétaire général du haut-commissariat, Stanislas Alfonsi. Une entrevue qui n'a pas porté ses fruits, selon Steve Territeaou, le secrétaire général de la FEDE.
Ils restent sur leur position en nous invitant à nous rapprocher des juridictions administratives pour faire valoir nos doléances. Sauf qu'aujourd'hui, l'urgence de la situation ne nous permet pas d'attendre ce délai-là. Donc on réitère notre demande sur la prise en charge de la réparation des dégâts uniquement dans le cadre de l'application de l'article 211-10 du Code de la sécurité intérieure et de la compétence régalienne qui est la sienne. Donc aujourd'hui, on ne parle pas uniquement de la prise en charge des dégâts matériels qui ont été causés à l'issue des émeutes, c'est également de venir en substitution des recettes fiscales perdues par la Nouvelle-Calédonie qui avoisine aujourd'hui plus de 12 milliards. Donc il y a urgence, on estime que sa responsabilité civile est engagée et on demande à ce qu'il répare ce préjudice.
Et plus d'une cinquantaine de manifestants étaient ce matin devant le centre administratif du Haut-Commissariat. Ils ont demandé à être reçus par le Haut-Commissaire pour poursuivre les discussions. Le gouvernement de la Nouvelle-Calédonie, lui, a adopté hier plusieurs textes relatifs à la situation créée par la crise. L'objectif est de maîtriser les dépenses de fonctionnement dans le secteur public, avec l'instauration d'un jour de carence notamment, et la suspension exceptionnelle et temporaire des avancements, un sujet dont nous parlerons demain matin avec Christophe Coulson, le président de l'UTCFE-CGC, qui sera notre invité à 7h30, l'occasion aussi de faire un point sur la situation de la CLR et les mesures engagées pour sauver le régime.
Vous écoutez InfoSoir, il est 18h07.
Comment relancer le tourisme en Calédonie si durant les émeutes, les prestataires touristiques ont dans l'ensemble été peu touchés par des destructions matérielles? C'est la crise économique qui inquiète le secteur. Actuellement, très peu de visiteurs internationaux et locaux se risquent à visiter le territoire, qui est classé comme étant une zone à risque depuis mai dernier. À court terme, un soutien est proposé aux structures touristiques, mais il faut aussi penser à relancer le secteur, explique Philippe Artigue, directeur marketing et communication à Nouvelle-Calédonie Tourisme.
On a mis en place une stratégie de relance en 5 phases qui, à chaque fois, en fait, suivent l'évolution de la situation. Donc, on est sorti de la gestion de crise pure. Là, maintenant, on est dans une phase d'apaisement. On reprend tranquillement le dialogue avec les voyageurs et les voyagistes. On essaye de reprendre contact. Septembre, on sera dans une phase de rassurance. On va activer pendant 2 mois. Vraiment, on va essayer de valoriser les prestataires et les quelques touristes qu'on a actuellement pour montrer que malgré les difficultés, on fait du tourisme en Nouvelle-Calédonie, que c'est possible, ça avance. Mais c'est que si en octobre ou novembre, les destinations arrêtent de nous classer comme zone à risque parce que la situation se sera réellement apaisée, on pourra lancer des vraies campagnes de vente avec l'objectif de réattirer les touristes en nombre dès décembre.
Et tous les mois, une enquête de Nouvelle-Calédonie Tourisme est réalisée auprès des tour opérateurs et voyagistes à l'étranger pour connaître l'indice de confiance. La dernière enquête révèle que 32% des sondés sont confiants dans l'idée de reproposer la Calédonie comme destination. 15% se montrent sceptiques et 53% sont indécis. 18h09, dans un instant, la suite de l'actualité et notre page spéciale Jeux Olympiques.
Ah, ces assurances, j'y comprends pas grand-chose.
C'est pourtant simple, fais comme moi.
Va chez AXA, agence Ixone, Magenta à côté de Mazda. Pour la voiture, le voyage, la maison, la retraite, le placement et la protection de toute la famille, leurs conseils sont simples, clairs et efficaces.
AXA, agence Ixone, votre assureur de proximité.
Numéro de RIAS, 170 059.
Préservez votre habitation contre les termites avec Formula 4D.
Traitement de charpente, piège préventif et barrière chimique.
Déductible de vos impôts. Infos sur formula4d.com.
À vos côtés depuis 40 ans.
RRB toujours à vos côtés. Depuis le début des émeutes qui secouent la Nouvelle-Calédonie, les équipes de Radio Rythme Bleu se sont mobilisées pour vous informer, vous accompagner et pour faire vivre votre antenne.
Malgré l'insécurité, les tensions et les difficultés de déplacement, nous nous sommes engagés pour répondre à votre confiance et à votre fidélité.
Demain, comme aujourd'hui, comme hier, RRB sera toujours à vos côtés.
RRB, première radio d'information.
La suite du journal, Gilles Ménage.
À Marais, une personne portée disparue a été retrouvée saine et sauve. Ce matin, les pompiers de Lille ont sollicité le COSENSE pour retrouver un homme de 28 ans qui avait été signalé disparu par sa famille hier dans l'après-midi. Cette opération coordonnée par le COS a nécessité l'appui d'un puma des forces armées en Nouvelle-Calédonie. Les précisions de Nicolas Chomar, le directeur du COSENSE.
Le COS a été sollicité ce matin par les pompiers de Marais concernant en fait un témoignage de la famille d'une personne qui était portée disparue depuis hier sur le secteur de Marais au niveau de la baie de l'Allier. Il y a eu l'information qui serait partie nager depuis hier après-midi. Donc le COS a coordonné l'opération de recherche maritime et a notamment sollicité le concours d'un puma des FANC qui se trouvait à Lifou au moment où on l'a engagé. Donc il a pu être rapidement sur zone et il a effectivement rapidement retrouvé la personne qui était assez loin de sa mise à l'eau initiale puisqu'il était au niveau du Cap Roussin, dans l'eau, mais en vie, à pied. Il était sur le platier, en fait, avec de l'eau à mi-hauteur, le long d'une falaise, et donc Puma a pu ensuite procéder à la récupération de la personne, et a pu ensuite le ramener à l'aérodrome de Marais, où ensuite la personne a pu être prise en charge par les pompiers et la gendarmerie.
Et l'homme serait parti nager un peu trop loin après une dispute avec sa famille. Cet après-midi, plusieurs acteurs institutionnels se réunissaient au Mont d'Or avec à l'ordre du jour les difficultés d'accès aux différentes structures scolaires dans la commune, Sarah Mégerie.
Était notamment présent le vice-recteur Didier Vindatich, Isabelle Chamorreau, membre du gouvernement en charge de l'éducation, Christopher Gigès, membre du gouvernement en charge du dialogue social, ainsi que les chefs d'établissement des collèges et lycées de la commune. Premier sujet abordé, celui des transports dans la commune. On fait le point avec Valérie Bollot, adjointe au maire en charge de l'enseignement pour la ville du Mont d'Or.
Les réponses qui ont été apportées aujourd'hui ne sont que des pistes. Mais tant que, de toute façon, la route de Saint-Louis sera bloquée, la solution, on l'aura pas. Donc il faut aussi trouver un moyen de sécuriser cette route et que les gens puissent passer. Alors on sait que ça va pas se faire peut-être dans l'immédiat. Donc la raison de notre réunion d'aujourd'hui, c'est de proposer justement des solutions alternatives assez rapides pour que déjà dès la prochaine rentrée, les Mondoriens puissent se dire que... Voilà, on s'oriente vers des solutions et puis une amélioration du dispositif. On n'a pas attendu cette réunion, hein. Admettons qu'on envisage de proposer d'autres transports ou même de mettre à disposition des salles de classe. Il faut savoir combien d'élèves sont concernés, qui va venir, qui ne viendra pas, etc. D'ailleurs, cet état des lieux a déjà été fait, hein, puisque la mairie du Mont d'Or a mis en place, dans le cadre de la prévention jeunesse, un dispositif où un de nos agents va à la rencontre des familles pour demander très exactement la raison pour laquelle l'enfant ne s'est pas présenté à l'école.
Et puis dans ce contexte d'accès difficile aux établissements scolaires, la continuité pédagogique prend une importance tout autre pour les élèves isolés.
Aujourd'hui, nous avons abordé ce sujet, c'est-à-dire que le vice-recteur a tenu, avec Mme Chamorreau également, à ce que ce dispositif de continuité pédagogique soit institutionnalisé et qu'on explique aux parents que ce qui s'y fait, c'est fait dans les règles de l'art. C'est pas juste de la garderie où les enfants iraient. On va donc faire appel, même pendant la période de vacances, à des professeurs qui pourront même peut-être être rémunérés pour proposer un encadrement sérieux, des cours qui seraient dispensés par niveau et où les enfants auraient aurait exactement les mêmes apprentissages que ce qui se fait en cours pour qu'il y ait une équité au niveau des cours qui sont dispensés en distanciel ou en présentiel. Donc oui, la continuité pédagogique, c'est quand même un bon remède, une solution qui nous permet d'attendre, mais on ne va pas pouvoir, rien n'est mieux que le retour à l'école. Donc moi, j'encourage vraiment les parents à renvoyer dès la rentrée les enfants à l'école.
Plus de 200 élèves sont concernés par ces difficultés d'accès. 130 élèves du collège de Boulary sont bloqués. Une quarantaine d'enfants de Saint-Louis. Et puis à Ploumes, c'est le personnel qui rencontre le plus de difficultés.
À l'occasion des Jeux Olympiques, cette fois, le groupe scolaire Alphonse Dulin-Singer de Dabéa a fêté le sport ce matin. À défaut d'avoir pu accueillir la flamme olympique, l'équipe enseignante a organisé un événement sportif en lien avec les JO. L'occasion de renforcer la solidarité et la cohésion entre les élèves, notamment avec les nouveaux venus du groupe scolaire Louise de Gréland, les élèves qui sont accueillis au groupe scolaire d'Auteuil depuis l'incendie de leur école il y a quelques semaines, des sportifs calédoniens de haut niveau comme Angelo François Elossier, Tito Ampouillou ou encore Laurent Ganet sont venus rencontrer les enfants. Le champion olympique de vitesse en cyclisme sur piste à Sydney a fait passer un message simple aux enfants, il faut croire en ses rêves. Et les enfants l'ont écouté, des plus petits aux plus grands. L'objectif est donc atteint pour les enseignants. Et parmi les enfants, certains ont même peut-être trouvé leur vocation.
Le premier atelier, on a fait du VTT. Et maintenant, on fait du saut en longueur.
On a fait du basket, on a fait du handball. Là, on est en train de faire l'arc et on a fait du golf.
Moi, j'ai bien aimé le tennis et le saut en longueur parce que vraiment, ça améliore notre course et j'aime bien.
J'ai préféré le basket parce que c'était amusant et aussi le handball.
Moi, j'ai préféré le tir à l'arc parce que c'est très amusant.
Ce que j'ai adoré le plus, c'est le tennis. Ça sert à motiver le bras.
J'ai aimé faire un match de handball et c'était bien.
Voilà, l'événement a rassemblé toutes les classes du groupe scolaire Alphonse Dulin-Singer de la maternelle au CM2.
Les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Les Jeux Olympiques, et on parle de nos Calédoniens engagés avec d'abord, et il faut bien le dire, Jean-François Bodin, une déception ce matin après la 5e place de Maxime Grousset en finale du 100 mètres nage libre.
Ah oui, c'est vrai qu'on espérait une médaille pour le nageur calédonien qui avait réalisé le 4e meilleur temps des demi-finales. Malheureusement, en finale ce matin, même si ça ne s'est joué à pas grand-chose, voire à rien, il n'a pas réussi à créer l'exploit.
Oui, c'est très serré, mais c'était peut-être un peu plus de relâchement, un peu plus... Voilà, pour l'instant, je ne sais pas trop. Je sais que j'ai voulu faire une course exceptionnelle, mais bon, malheureusement, après, pour accrocher un podium, c'était faisable, je pense. La course, j'ai voulu l'emballer. J'ai voulu tenir et aller jusqu'au bout, mais malheureusement, ça ne tient pas.
À Nouméa, une quinzaine de personnes s'étaient réunies dans la fan zone du CNC ce matin pour suivre cette finale. Parmi les fans du Calédonien, le président du CTOS, Christophe Dabin, qui est sûr que Maxime a tout donné.
On va dire que c'était une finale d'anthologie parce que quand vous avez un champion du monde et puis deux champions olympiques dans cette finale, Maxime avait fait le quatrième temps des demi-finales, mais on savait que ça allait être dur. Le niveau était extrêmement relevé parce que quand vous vous rendez compte un petit peu qu'on bat le record du monde. Donc aujourd'hui, je pense que Maxime a fait le maximum, qu'il n'a pas rougi à sa performance. Mais surtout, je crois qu'il faut retenir une chose, c'est qu'il y a encore d'autres courses et que là, on attend Maxime pour arriver à ce que Maxime puisse avoir au moins une médaille.
Et oui, on attend les autres courses de Maxime Grousset qui sera dès ce soir dans les bassins avec les séries du 50 mètres nage libre et demain les séries du 100 mètres papillon. On espère évidemment que dans ces deux catégories, il atteindra la finale et une médaille.
Et puis Jean-François, un autre Calédonien est en manque de réussite, il s'agit de Nicolas Goyard.
Oui, l'athlète engagé sur les épreuves IQ Foil passe malheureusement pour l'instant à côté de ses Olympiades. La nuit dernière, sur les quatre courses de voile qu'il a disputées, il n'a pu faire qu'une 14e place. Désormais, qu'une 14e place. Désormais, Nicolas Goyard est 15e au classement général. Alors tout cela n'empêche pas le camp tricolore d'être sur un petit nuage, porté évidemment par Léon Marchand. La France a désormais 26 médailles, dont 8 en or. Après sa victoire sur le 400 mètres quatre-nage en début de semaine, Léon Marchand a récidivé. Ce matin, il a remporté la finale du 200 mètres papillon et celle du 200 mètres brasse. 3 courses, 3 médailles d'or, 3 records olympiques à la clé. Et Léon Marchand n'en a pas terminé. Il sera aligné dès ce soir sur les séries du 200 mètres quatre-nage. Notez que la France a occupé pendant quelques minutes la tête du tableau des médailles et elle est ce soir deuxième derrière la Chine.
C'était les pages spéciales des Jeux Olympiques sur RRB avec la Banque de Nouvelle-Calédonie, partenaire premium de Paris 2024.
Et c'est Patrick, habitant de Magenta, qui est aujourd'hui le gagnant de notre jeu de mémoire de jeu et qui remporte donc un bon de carburant de 5 000 francs Offert par Shell, notre partenaire, nous vous demandions, parmi ces athlètes français, quel est le seul à détenir 4 médailles d'or olympiques. Vous aviez le choix entre Tony Estanguet, Nicolas Karabatic et Lucien Gaudin. Et la bonne réponse était Lucien Gaudin. Cet escrimeur a obtenu 2 médailles d'or au JO de Paris. C'était en 1920 et 2 autres en 1928. Le kayakiste Tony Estanguet ne totalise que, entre guillemets, 3 médailles d'or, tout comme le handballeur Nicolas Karabatic. Rendez-vous demain pour une nouvelle question de mémoire de jeu sur RRB, la météo.
La météo avec la 7. 6 magasins sur l'ensemble du territoire pour vous accompagner dans tous vos projets. La 7, construire, rénover, aménager.
Et on vous écoute pour les détails, Nicolas.
Alors, cette nuit, le ciel restera couvert avec quelques gouttes par endroit. Les petites pluies deviendront plus régulières et persistantes sur les Loyautés et le Nord. Le vent sera faible sur la côte Est, le Sud ainsi que sur l'Ouest en fin de nuit. Ailleurs, il oscillera entre 10 et 15 nœuds de secteur Sud, localement proche de 20 nœuds sur la pointe Nord et Bélep. Les températures minimales seront en baisse, entre 12 et 14 degrés dans l'intérieur et 20 degrés près des côtes. Demain matin, temps gris et pluvieux sur la majeure partie du territoire. Seul le sud-ouest et l'extrême sud bénéficieront d'un temps globalement sec. Sur la pointe nord et le nord des Loyautés, le vent de sud soufflera de 15 à 20 nœuds. Sur le nord-ouest et marées, il sera compris entre 10 et 15 nœuds. Ailleurs, il sera faible sur le sud à sud-ouest, Gilles.
Merci Nicolas pour tous ces détails. C'est la fin de ce journal.